Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Auditeurs, auditrices de RDIWA, suite à l'interview que nous avons faite de Sabi Epolo, organisateur avec la roulotte mécanique des rencontres autour de la danse buto, accord tordu, qui se dérouleront samedi 24 septembre au gîte Columbia à Aurel, nous vous proposons de découvrir maintenant l'interview, cette fois-ci réalisée par Mathieu Marc de la radio Fréquence Mistral auprès de l'une des artistes invitées de ces rencontres, Lorna Lori. Radio Fréquence Mistral, à vous l'antenne sur RDIWA 107.5 et 101.7 FM.
Le buto est une danse née dans les années 60 au Japon, nourrie des arts plastiques, de la littérature, du théâtre et des remous sociopolitiques. Danse qui s'est ensuite répandue en Europe. Le buto est une véritable philosophie de vie. Lorna Lori est danseuse, chorégraphe et propose des cours de buto dans la région de Forcalquier, notamment dans le cadre de l'association Empreinte en mouvement, qui est une plateforme d'échange autour de la danse dans le 04 et alentour. Lorna Lori aborde l'histoire de cette pratique ainsi que son rapport personnel à celle-ci.
Le buto est une danse contemporaine qui est née au Japon. De là, sa particularité ou sa différence par rapport à la danse contemporaine qu'on peut connaître, qui est issue peut-être des courants américains ou des courants européens. Donc la particularité du buto, c'est une courante qui est née dans l'après-guerre, surtout dans les années 60, au Japon. Elle est issue d'un mouvement qui se correspond à tout ce qui s'est passé dans le reste du monde à ce moment-là, le grand mouvement des années 60. Or, au Japon, c'était assez différent dans le sens qu'il y avait, pour la part des artistes émergents, une grande résistance à l'envahissement américain et à la perte de leur identité japonaise. Ils se sentaient vraiment envahis par une culture qu'ils voulaient refuser. Même qu'ils voulaient revendiquer la nationalité japonaise, ils voulaient s'opposer à la tradition ancestrale japonaise, très codifiée, presque tyrannique, du théâtre no, des kabuki qui passent de génération en génération, que c'est très fermé au niveau des codes. Autant ils voulaient se révéler contre ça, autant aussi de tout ce qui rentrait de l'extérieur. Donc il y a un crassement des paradigmes très intéressant dans la naissance du buto. Et ils s'étaient très intéressés, surtout par certains mouvements en Europe à l'époque. Notamment, le buto était très inspiré par la philosophie de Georges Bataille, pour Jean Chénet, pour la peinture de Francis Bacon, par les sculptures de Hans Bellmer, pour renommer beaucoup d'influences aussi des philosophes européens qui influençaient Artaud. Notamment Artaud, c'était pour Hijikata, un des créateurs du buto, c'était fondamental.
Le poète Antonin Artaud.
Voilà, Antonin Artaud. Poète et homme de théâtre, surtout et performeur, et quelqu'un qui était vraiment ancré dans les corps. Et de là, sa proximité au buto. Donc, le buto naît un peu comme sous forme des happenings, beaucoup dans la rue, beaucoup de façon très sauvage, et petit à petit, Hijikata, qui était un peu le première personne à avoir nommé le buto, commence à créer vraiment toute une philosophie. Pourquoi je dis philosophie? Parce que même je défends le buto comme danse et comme pratique, mais aussi, j'aime défendre les côtés philosophiques que portent ces pratiques. Parce qu'il y a avant tout une réflexion par rapport au corps. Et c'est cela, en tout cas, que moi, en tant que danseuse contemporaine, je venais du classique et des contemporains, quand j'ai découvert les buteaux, c'était un voyage aller. Parce que ça m'a répondu à beaucoup des questionnements par rapport au corps que je me faisais. Je veux dire, je peux pas être l'instrument d'un discours qui me parle pas. Je ne peux pas suivre le mouvement d'un directeur des scènes. Et j'ai découvert dans les buteaux, un lieu pour réfléchir autour du corps et la construction sociale du corps et pouvoir danser avec ça. N'est pas seulement rester dans son réflexion sociale ou psychologique, etc., sinon aussi les traduire dans un spectacle, une façon de communiquer avec un public, etc., cette construction de la danse. tout est relié, non? Le fait que le buto soit né dans toute sa grande complexité fait aussi qu'il ne soit pas que simplement une tradition de mouvement, une tradition de façon de bouger. Je veux pas être, je pense que toutes les pratiques ont, en soi, en origine, la contextualisation qui les fait naître, etc. Mais, pour moi, en tout cas, dans le peu que je connais, dans le buto, j'ai trouvé vraiment une profondeur qui m'a répondu beaucoup de questions personnelles.
Souvent, dans l'imaginaire occidental, on associe le buto avec la catastrophe nucléaire. Or, ça reste deux choses pas séparées, qui sont liées, mais ce n'est pas une origine, en tout cas, cette catastrophe.
Oui, oui, c'est intéressant parce que aussi la réception du buto en Europe est reliée à beaucoup de malentendus parce que c'est ce compagnie, les premières danseurs de buto qui ont débarqué en Europe avec des mouvements complètement différents à ceux qu'on connaissait comme danse contemporaine, ont provoqué des réactions assez fortes, assez contrastées par rapport à... Et le genre tout de suite a dit, ah voilà, c'est la danse qui est née après Hiroshima. C'était un raccourci qui s'est beaucoup répandu. Or, Hiroshima fait partie de l'histoire des Japonais et effectivement, les mouvements qui ont né après Hiroshima peuvent être influencés par Hiroshima comme par toute l'histoire du Japon. Mais le travail corporel qui a les boutons n'a pas forcément une relation directe à les corps, disons, déformés ou transformés d'Hiroshima, sinon à une envie de venir creuser l'image ou venir contester l'image traditionnelle du danseur, l'image traditionnelle de la beauté du corps et dire qu'est-ce que c'est, bien questionner la tradition esthétique et athlétique, je dirais, du corps du danseur en général et à dire tout corps est capable de danser, on peut danser autant sa lumière que son obscurité et tout notre vécu est là disponible pour être dansé. Et de là que Hiroshima fait partie de l'histoire des Japonais, donc il va faire partie de leur danse. Pour nous, en tant qu'Européens, pour moi, en tant qu'Argentine, j'aurais des autres matériaux qui vont venir de mon histoire ancestrale, etc., qui vont danser là. Donc, ils ne pouvaient pas l'ignorer non plus.
Cette rupture esthétique par rapport à la danse classique, qu'est-ce qu'elle représente? Quelles images on pourrait sortir du buto? Alors j'imagine qu'on ne peut pas le résumer comme danse, mais vu qu'on est à la radio, ça peut être intéressant peut-être de essayer de donner à voir ce qu'est cette danse.
Et effectivement, il y a une rupture par rapport à la danse classique, mais la rupture de la danse classique, là, on fait aussi beaucoup des danses contemporaines qui ont apparu. Et on peut parler aussi de l'expressionnisme allemand, dont le buto est très proche, qui a déjà vraiment allé, la danse expressionniste allemande, a vraiment allé loin par rapport à redécouvrir les corps autrement, à rompre avec une esthétique très conventionnelle de la danse classique. Mais peut-être la particularité du buto, et là ça a à voir aussi encore avec son origine japonaise, et bien rompre aussi avec la dualité, c'est-à-dire l'obscurité et la lumière font partie de nous. Il ne va pas dire ça c'est mauvais et ça c'est bien, sinon ça correspond à la philosophie bouddhiste, non? De la même façon que les corps sont souvent très androgynes, il n'y a pas forcément une détermination genrée du corps. Autant les danseurs, et ça arrive souvent, je suis un danseur buto habillé en femme, c'est très souvent, et vice-versa. On est animal, on est femme, on est homme. Il y a vraiment toutes les dualités sont vraiment mises en question. Et ça vient effectivement d'une rupture de la pensée cartésienne, de la pensée dualiste, et qui nous invite à trouver un corps délié ou libéré de tout ça, qui se met à danser. Donc, de ce point de vue, quand on voit un danseur buto, on voit un danseur buto qui va utiliser peut-être beaucoup son visage. Et moi, je dis souvent à la gens qui viennent partager les pratiques avec moi, je dis, c'est pas une volonté de faire des grimaces, c'est dire, notre visage peut danser. Et autant notre main est expressive, autant notre visage est expressif, autant notre pied est expressif, n'est pas coupé. Moi, on dit souvent que les danseurs contemporains ont la tête coupée, parce qu'on les voit toujours avec les mêmes expressions, et les corps, il se passe plein de choses, et la tête, on dirait qu'il ne se passe absolument rien. Mais pourquoi? Parce que les visages, c'est le lieu le plus socialisé de notre corps. Donc, du moment qu'on modifie les visages, c'est très fort pour l'autre qui voit. Donc, si je change mon visage, je suis en train de produire beaucoup de choses. Mais hors mon visage, si je le désocialise, c'est un terrain hyper intéressant à explorer. Comme ma main, mon dos, il y a vraiment un paysage qui s'ouvre complètement différent quand on déconstruit cette construction sociale du corps. Non, les boutons vont aller avant, pas souvent du fœtus, des bébés, du corps qui ne connaît pas la socialisation. Et de là, va dire, bon, comment je reconstruis ces corps si on n'a pas eu la société? Comment ils l'inséraient? Ça, c'est une consigne, par exemple, qu'on pourrait avoir un buto.
Alors, vous parlez de consigne et de reconstruction, déconstruction, reconstruction. Il y a des outils spécifiques au buto? Il y a des sortes de règles du jeu?
Et justement, je lisais ce petit bouquin de Kajimaro. Il disait, moi, pour les danseurs qui viennent dans ma compagnie, j'exige pas trop qu'ils soient des bons danseurs, qu'ils aient un grand entraînement physique, autant qu'ils aient la capacité de faire page blanche de leur corps. Ils soient disposés à abandonner certains lieux et certaines habitudes et qu'ils se proposent ça, abandonner pour pouvoir récupérer, parce que l'idée, c'est pas de se vider complètement, mais si pouvoir rester dans un état de disponibilité pour pouvoir danser des autres choses. Par rapport aux consignes, on te dit comme un protocole, de début, ça pourrait être le fait pour lâcher la tête. Donc, il va y avoir des longs moments d'entraînement. Ce n'est pas forcément chercher l'épuisement, etc., mais si d'abandonner notre habitude corporelle. Et ça peut être sous forme hyper différente. Mais la première idée, ça va dire, bon, on abandonne notre habitude quotidienne. Et après, il va y avoir peut-être des propositions très spécifiques, ça peut être très chorégraphié pour le moment, encadré. À un moment donné, je vais inviter à la personne, ou tous les danseurs, l'agent qui partage la pratique, va inviter à que la personne s'approprie de ça et qu'elle retransforme. Hein. Mais c'est des gemmes, parce que s'il n'y a pas, des fois, cette indication, la personne va encore tomber dans ses habitudes, non? Et là, comment dire, oh, viens par là, et voilà, ta, et alors maintenant, reviens si tu veux, mais tu as découvert autre chemin pour y aller. C'est pour ça que c'est un long processus, les séances peuvent durer 5 ou 6 heures. Et c'est intéressant, c'est très intéressant.
Et vous proposez des formations ou des cours de buto dans la région de Fort-Calquier ou ailleurs?
Oui, à Fort-Calquier, j'étais très étonnée. Il n'y a pas longtemps que je suis dans les 04, où je venais de Paris, où il y a des gens qui pratiquent le buto, etc. Quand je viens à Fort-Calquier, je ne m'attendais pas à avoir de rencontres de gens qui soient intéressés par le buto. Or, il y a des gens même qui connaissaient beaucoup les boutons ici, qui avaient pratiqué ici ou là, et qui étaient même contents d'avoir la possibilité de pratiquer ici. Donc, il y a des cours hebdomadaires à l'école de musique et danse de Fort-Calquier. Pas maintenant. Mais en général, quand ça s'avère possible, on fait les lundis et les mardis. Les lundis à Fort-Calquier et les mardis sur Man. Et c'est un groupe, c'est des gens qui pratiquent de façon régulière. Et de temps en temps, que c'est possible, j'organise aussi des stages sur des formes, effectivement, comme je disais, plus longues, où on peut plonger plus. Sinon, les séances sont de 2 heures et demie, minimum.
le livre d'Akaji Maro, Danser l'invisible, Danser avec l'invisible, présentation et entretien de Aya Suejima, il est dit au chapitre inconscient, l'humain est drôle. Enfant, je dormais avec ma grand-mère sous une moustiquaire. Avant d'y entrer, elle se mettait nue à quatre pattes et faisait des mouvements vifs et mystérieux comme un animal. J'ai su après qu'elle attrapait les puces dans la ceinture qu'elle venait d'enlever. Si on dissocie le mouvement de sa finalité, cela peut devenir un mouvement de danse. C'est pourquoi il est intéressant de capter à vif un instant de la vie humaine. L'inconscient est un univers plus vaste que celui de la conscience. J'ai envie de créer mes spectacles à partir de cet univers. Chapitre Le Fœtus. Nous avons commencé à danser dans l'utérus de nos mères. La position du fœtus est donc un classique du buto. C'est une danse qui est très agréable à faire, proche de la méditation. Continuons cet entretien avec Lorna Lori, danseuse de buto.
Vous parliez d'un aller simple vers le buto, lorsque vous veniez de la danse classique à l'origine. J'avais envie d'en savoir un peu plus sur votre histoire personnelle liée au buto.
Oui, depuis très petite, j'avais fait la danse classique, les conservatoires de danse classique. Puis j'ai commencé à découvrir la danse contemporaine, en même temps que le théâtre. J'étais en fac de théâtre et en même temps, dans la fac de théâtre, on avait un groupe de danse, etc. Et dans ces allers-retours à l'université, qui a toujours des stages, des choses qui se passent à côté, non, c'est la grande possibilité qu'on a au moment de la vie, qu'on est très curieux. Il y a quelqu'un qui me dit, notamment une collègue, qui me dit, Lorna, il y a un stage de buto d'une nana qui vient d'arriver de France. C'était quelqu'un qui avait été formé en France pendant des années. Il avait dansé notamment avec des gens que j'ai connus ici. Il dit, et je pense que ça va t'intéresser. Parce qu'il connaissait que moi, je commençais à être vraiment fatiguée. Je faisais partie des deux compagnies de danse contemporaine qui tournaient pas mal, etc. Mais il y avait quelque chose qui pour moi tournait en rond. Et c'était vraiment comme une plongée immédiate. Et j'ai découvert ce travail avec cette femme qui était argentine, m'avait passé beaucoup de temps en France. Elle était aussi philosophe à la base des formations, donc une danseuse philosophe, moi c'était waouh, c'était vraiment une grande j'ai découvert la philosophie du corps, beaucoup de choses que pour moi, en ayant beaucoup travaillé mon corps, jamais posé comme question. C'était vraiment très riche. Et de là, petit à petit, avec elle, je commençais à chaque fois qu'elle proposait ses stages, venir, etc. Et moi j'étais à Córdoba, en Argentine. Et elle vivait à Buenos Aires, il avait une compagnie à Buenos Aires, donc j'étais vraiment très, très content avec ce travail, je voulais aller plus loin, donc j'étais allée à Buenos Aires, j'ai intégré sa compagnie. Pendant presque 6 années, c'était une compagnie de femmes, 8 femmes qui ont fait du buto. Et c'était, je pense, la première compagnie de femmes de buto qui existait en Argentine, parce qu'en ce moment, c'est mentionné souvent quand on parle de buto en Argentine. Notre compagnie était un des premiers groupes qui a persisté dans le temps, etc. Plus féminin, très fort. Il avait toute une impronte d'appropriation de corps. Voilà, tout ce qui s'est rajouté à ça. Durant cette expérience, j'avais déjà envie d'aller un peu plus loin. C'est ce qui m'a amené en Europe. Parce qu'un des temps en temps, avec la compagnie, on invitait des gens. Et notamment un maître allemand qui s'appelle Tadashi Endo, qui venait souvent tous les ans en Argentine, et on travaillait un peu avec lui. Et c'est lui qui, une fois, m'invite à venir en Allemagne pour un projet qu'il faisait. Et voilà, c'est parti. Je n'ai jamais rentré. C'est-à-dire, j'ai rencontré beaucoup de gens intéressés au buto ici. J'avais parti un peu pour rester en Allemagne. Je me trouvais après en France, etc. Mais, et après, j'étais au Japon aussi. Et quelques temps, j'avais besoin de connaître un peu plus les racines de la chose. J'étais au studio de Katsuono. Je rencontrais des personnes bien reliées aux origines du buto. Et ça m'a répondu aussi à beaucoup de questions. Et seulement après cette petite expérience au Japon, je sentis que je pouvais peut-être partager quelque chose. Et disons, le moment de partage, des stages, des cours, des transmissions, j'aime pas trop les mots, mais peut-être c'est un peu ça, est venu après toutes ces expériences, surtout après avoir passé par Japon, que j'ai pu comprendre beaucoup des enjeux que j'avais pas vus avant. Et bon, je me sentais plus capable de partager ça. Et voilà, et après Paris, après ici, etc.
Nous sommes intéressés par ce que vous proposez. Est-ce que vous avez un site internet à référencer pour qu'on en sache un peu plus sur les formations et les cours que vous proposez?
Il y a un petit blog des les groupes que je dirige à Paris, un espèce de laboratoire de création avec lesquels on travaille presque en permanence et tous les années on fait une petite ou une grande restitution. Il y a un blog de ces groupes. On raconte un peu ma façon de travailler avec ces groupes, mais en général, ma façon de travailler. Il y a un aparté où ça parle de mes stages et surtout, c'est ce que je propose à Paris. C'est le groupe Takuabe. C'est takuabebuto.com. Et sinon, pour tout ce que je propose plus dans les 04, je n'ai pas forcément un site web à moi. Il y a une page Facebook où j'actualise toutes les informations. Et si vous tapez l'on à l'heure et dans ce bouton, en général, sinon le site ou les lieux où je travaille. Ouais.
Et dernière chose, s'il y a des auditrices, auditeurs qui sont intéressés aussi par le buto, peut-être ça serait possible de donner quelques références de livres, par exemple.
Bien sûr, il y a un livre du CNRS que je conseille souvent, qui s'appelle Butos, c'est-à-dire buto, B-U-T-O avec chapeau, et S entre parenthèses, parce que fait référence effectivement qu'il n'y a pas un seul buto. Souvent, en buto, on dit un danseur, un école. Et ce livre de la CNRS, c'est vraiment une espèce de panorama des origines du buto, des influences, de l'évolution, etc. Et un peu les butos dans le monde. Et sinon, il y a autre livre, un deuxième livre que je pourrais conseiller, c'est un livre d'un japonais, Uno Kunishi, que c'est un critique, que c'est quelqu'un qui était pour moi à côté du créateur de buto pendant beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment un peu plus approfondi. Ça, c'est vraiment une recherche beaucoup plus approfondie. Qui s'appelle Ijikata Tatsumi, Pensée encore épuisée. Donc, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans le côté philosophique, il y a ça.
Merci à Lorna Laurie pour cet entretien.